Chers amis, bonjour ou bonsoir à tous. Bien, soyez les bienvenus à tous à l'Institut culturel Quetzalcoatl. Vous êtes ici, c'est chez vous, et nous allons commencer notre conférence d'aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui traitera des chakras, des sept chakras fondamentaux qui sont dans notre corps. C'est un sujet très intéressant et très important qui a été étudié dans toutes les cultures du monde, du sud, du nord, à l'est, à l'ouest. Cette étude sur les chakras fait partie de ce que nous pourrions appeler l'anatomie occulte, d'accord? Nous avons de nos jours beaucoup à apprendre sur cette anatomie occulte de l'être humain, malgré toutes les avancées scientifiques importantes qui ont été faites. Il existe maintenant des appareils électroniques très performants qui étudient le corps humain, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons les ultrasons, les 3D, les électrocardiogrammes, encéphalogramme, les scanners, les radiographies, les images électromagnétiques et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres technologies encore qui nous font penser que nous avons appris beaucoup sur les corps humains déjà et que nous sommes très avancés. Mais nous restons néanmoins dans un dogme tridimensionnel. Nous méconnaissons énormément l'être humain et nous ignorons l'existence des chakras et ce que sont les chakras. Le mot chakra est un terme sanskrit. Le sanskrit est une langue sacrée de l'Inde. Et se traduit tout simplement comme un disque ou une roue. D'accord? Chakra, c'est-à-dire disque ou roue. Dans de nombreuses allégories, nous pouvons observer des chakras, c'est-à-dire disque ou roue magnétique. Généralement, on les représente comme des fleurs. Et en Inde, ils sont représentés par des fleurs de lotus. Chaque culture les représente à leur façon. Il y a trop longtemps, l'être humain n'était pas si dégénéré et n'avait pas perdu tous ses sens. Malheureusement, de nos jours, nous avons beaucoup perdu. Et ces sens se trouvent dans un état latent, endormi et ennu. Mais nous pouvons les réactiver, ces facultés latentes, ces sens. C'est-à-dire, nous pouvons les réveiller à nouveau. Lorsque ces chakras sont développés de façon positive, ils nous confèrent des pouvoirs, des dons, des sens extraordinaires qui pourraient nous rendre la vie plus facile, beaucoup plus facile. Nous sommes devenus très compliqués et avons compliqué notre existence. Nous nous sommes éloignés de la nature et c'est pour cela que nous avons beaucoup plus de maladies, beaucoup de problèmes et beaucoup de souffrances. Il vaut donc la peine que nous approfondissions notre connaissance sur cette centre magnétique, sur ces chakras, sur ces fleurs de lotus ou ces roues. Dans la Bible, écoutez bien, dans la Bible, ces chakras ont le nom d'églyphes. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 2 et 3, on nous parle de sept églyphes. Ces sept églyphes sont les noms chrétiens de ces chakras. Ces églyphes n'appartiennent pas à un passé historique, à un lieu déterminé, mais elle se trouve en chacun d'entre nous, à chaque instant. Les sept églises de l'Apocalypse de Saint Jean sont donc ces mêmes chakras de l'âme millénaire. À l'époque où nous vivons, nous sommes très en retard pour les choses spirituelles. Nous faisons beaucoup de commerce, nous voulons avoir de l'argent, de faire de l'argent avec tout, exploiter les gens, les tromper, les voler, et parler les chakras de nos jours est très à la mode, mais nous en parlons de manière fanatique, erronée. De nombreuses personnes pensent qu'ils peuvent activer leurs chakras physiquement, en se taponnant des ondes où ils se trouvent, ou en mettant des petites pierres, des quartz ou des couleurs sur leur corps. Ils pensent qu'ils peuvent ainsi activer leurs chakras. Mais en réalité, les choses ne se passent pas jamais comme cela. L'activation des chakras n'est pas quelque chose de mécanique ou de physique. Pour que les chakras se développent, pour qu'ils s'activent à nouveau, nous devons avoir avant tout le mérite du cœur. C'est vraiment indispensable. Souvenons-nous de Saint-François d'Assise, par exemple. Il ne désirait aucun pouvoir, aucune faculté, ni rien dans le genre, contrairement à nous. Ce qu'il souhaitait, tout simplement, c'est de finir avec ses défauts psychologiques. Lorsqu'une personne décide de détruire ces éléments psychologiques indésirables, comme l'orgueil, la paresse, la gourmandise, l'envie, la vanité, etc., ces chakras s'activent de façon naturelle et spontanée, sans aucun artifice, et cela graduellement. L'éveil des chakras n'est pas quelque chose de fantastique, avec des explosions, de la fumée ou des visions, non. L'éveil des chakras est spontané, naturel, graduel, c'est surtout volontaire. L'éveil des chakras n'est pas possible par accident, par exemple. Le chakra coccygien ne va pas s'activer d'un coup si on tombe sur le coccyx brutalement. Non, cela ne se passe pas ainsi. Les chakras se développent avec le mérite du cœur. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. On ne peut pas trouver un chakra à l'aide d'un bistouri ou avec des chocs électriques. Et encore moins, l'activer en chirurgie. Et personne ne peut activer le chakra de quelqu'un d'autre. Payer quelqu'un pour qu'il éveille nos chakras, c'est jeter notre argent par les fenêtres. Personne à part nous-mêmes, ne peut activer nos chakras. C'est nous-mêmes et seulement nous-mêmes qui pouvons activer et développer nos propres chakras. Au thème de la Lémurie, l'être humain possédait 12 sens, au lieu des 5 que nous avons aujourd'hui, 12. Leur sens était complètement développé. Nous rappelons que la Lémurie fut la troisième race qui a existé sur la Terre. 5 races ont existé sur la planète Terre, 4 intérieures et nues. Nous sommes la cinquième race qui vit sur Terre. La première race fut la race polaire, la deuxième la race hyperboréenne, la troisième la race lémure, la quatrième la race de l'Atlantide, et nous sommes la cinquième race appelée ésotériquement, oui, ésotériquement, la race aryenne. Il y a environ 25 millions d'années, l'être humain, lémure, possédait 12 sens entièrement développés. Quels sont ces 12 sens? Eh bien, ils correspondent aux 7 chakras, plus les 5 sens que nous possédons de nos jours, et qui sont bien déficients déjà. La race lémure les possédait, et nous devrions aussi les avoir. Imaginez-vous que nous perdions la vue. Comme serait le monde pour nous? Et si nous perdions aussi la vue? Le monde pur nu serait vraiment très limité. Eh bien, nous avons perdu 7 sens déjà. Mais vous rendez compte combien le monde est devenu limité pour nous. Nous avions 7 sens en plus pour percevoir l'intégrité, la totalité de ce monde, de la nature. Mais nous avons aujourd'hui perdu 7 sens. Ces 7 sens que nous avons perdus sont en relation avec les centres magnétiques, qui n'appartient pas au monde tridimensionnel, au monde physique ou au monde d'Euclide, comme l'appellent les trois dimensions qui nous entourent, dans lesquelles nous vivons, que nous connaissons et que nous captons, qui sont les longueurs, la largeur, la profondeur, la hauteur. Mais il y a d'autres dimensions que nous ne pouvons voir, mais qui existent vraiment. L'être humain avait donc, il y a très longtemps, 12 sens. Fondamental. C'est très intéressant car ceci est en accord avec les deux lois qui sont la loi du 3 et la loi du 7. Ici, dans la gnose, la loi du 3 s'appelle la loi de Triamasikamna et la loi du 7, la loi de Parapachinok. Eh bien, la loi du 3 est très importante car c'est elle qui crée tout. Tout est créé. Et c'est créé en accord avec la loi du 3 qui est représentée par toutes les religions du monde et dans toutes les cultures par les trois aspects de la divinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans le christianisme, Brahma, Vishnu et Shiva dans l'âme millénaire, Keter, Chokma et Vina dans la Kabbale hébraïque, Shipi Kakulha, Raksa Kakulha et Kakulha, le cœur du ciel Maya et Popol Vuh. Nous pouvons observer cette triade ou cette trinité dans toutes les cultures du monde et elle est représentée dans toutes les religions du monde. Ces trois forces représentent la loi du 3 qui s'unissent pour créer tout ce qui existe et une fois créé, la loi du 7 l'organisme. Dans l'être humain, la loi de trois se manifeste par le corps, l'âme et l'esprit. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit, car nous possédons une âme, mais l'esprit est. L'âme est l'ensemble des vertus, des pouvoirs, des dons, des lois et des facultés que nous devrions posséder. Et l'esprit est ce qui est. Nous pouvons aussi observer cette loi de trois dans tous les trois systèmes nerveux et trois centres nerveux. Le centre spinal, le sympathique et le parasympathique. Ces trois systèmes sont en relation avec les sept chakras qui correspondent à du plexus, des systèmes nerveux et des glandes qui sont des petits micro-laboratoires où sont sécrétées les hormones. Dans les glandes et dans les plexus, nous possédons également des chakras. En fait, il en existe beaucoup. Nous avons beaucoup de chakras. Ils sont très nombreux, mais en accord avec la loi du 7, nous avons 7 chakras principaux ou fondamentaux. Nous avons des chakras dans les genoux. Nous en avons dans la plante des pieds, dans les reins, dans les poumons, dans les mains aussi. Nous avons beaucoup de centres magnétiques partout dans le corps, mais 7 d'entre eux sont fondamentaux et sont en accord avec la loi du 7 qui organise tout. Ces chakras sont en relation étroite et nous les répétons avec les glandes, comme la glande pinéale bien sûr, la glande pituitaire, la glande thyroïde, et aussi avec les plexus, comme le plexus cardiaque, le plexus solaire, le plexus coccygien. Un plexus est un ensemble de très nombreux nerfs. Nous possédons donc sept chakras fondamentaux, sept chakras principaux, dans notre corps qui correspondent aux sept églises de l'Apocalypse de Saint Jean. Et nous allons les étudier. Les fameuses églises de l'Odyssée et les chakras Sahasrara, d'accord? Les chakras Sahasrara de l'Inde. Ces chakras du dessus de la tête a été représenté dans toutes les cultures du monde et dans beaucoup de peuples. Chez les habitants de l'Amérique du Nord, chez les Indiens, les Apaches par exemple, ainsi que d'autres peuples. Leur chef avait sur la tête un ornement rempli de plumes de toutes les couleurs. Cela signifiait et montrait que ce chef était une personne qui avait développé complètement son chakra Sahasrara. Avec le temps, cet ornement des grandes plumes s'est transformé en symbole car nous avons beaucoup évolué. Ce peuple n'avait plus cette faculté et n'en gardait que le symbole. Représentation de ces chakras. Il l'ignore aujourd'hui, mais ces représentations originellement, c'est le symbolisme de ces chakras Sahasrara. L'auréole des centres que nous voyons sur les peintures comme une couronne dorée représente aussi ces chakras Sahasrara. Et en Inde, où on les représente comme une coiffe dans les cheveux au niveau de la glande pinéale. Ce chakra Sahasrara est représenté dans beaucoup de cultures et de très nombreuses et diverses façons. Mais l'important, c'est que nous sachions que ce chakra se trouve dans la glande pinéale. C'est l'église de l'Odyssée. Et la glande pinéale est une glande maîtresse, une glande principale, très importante. Elle a beaucoup de fonctions et elle permet, entre autres, le développement, l'évolution de nos organes créateurs. Elle sécrète beaucoup d'hormones. Et c'est en elle que se trouve le chakra Sahasrara. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, l'ange parle de nombreuses vertus qui sont absolument nécessaires pour développer et activer cette église, pour activer ce chakra Sahasrara. Si nous ne possédons pas ces vertus, ces qualités, quoi que nous fassions, ce chakra ne s'activerait pas avec des quartz, avec des couleurs, avec des lumières. Sur ces lieux de notre corps, sur cette zone de notre corps, ce chakra ne s'activera pas si nous avons auparavant les vertus nécessaires. Nous pouvons nous mettre la tête en bas, donner beaucoup d'argent à quelqu'un pour qu'il l'active, aller dans des séminaires d'activation de la glande pinéale, je ne sais quoi, quoi d'autre. Mais jamais ce chakra ne s'activera si nous ne possédons pas ces vertus, d'accord? Il faut souligner qu'il existe des facultés positives et des facultés négatives. Ici, dans l'Arnos, nous n'enseignons pas les facultés négatives. Et si vous voulez les apprendre, il existe d'autres endroits, d'autres écoles pour cela, où les personnes prennent toutes sortes de drogues pour activer leurs chakras. Ici, dans la gnose, nous ne sommes absolument pas d'accord pour cela. Et nous ne sommes pas d'accord non plus pour utiliser des objets physiques pour les activer. C'est inutile. Ce que nous enseignons ici dans la gnose, c'est qu'il faut avoir des vertus pour pouvoir développer ces chakras. Les vertus dont nous avons besoin sont la volonté vraie et la sainteté. Nous ne parlons pas bien sûr de cette mauvaise volonté qui nous pousse à ne pas faire nos pratiques pour développer nos chakras, ou qui nous fait faire du tort aux autres personnes ou d'autres choses encore. Ce dont nous avons besoin, c'est de la volonté pour changer et nous transformer. Voilà la volonté vraie dont nous avons besoin. Il ne faut surtout pas confondre cette volonté avec la force du désir. Lorsque nous désirons quelque chose, cela nous donne une force pour l'obtenir, mais c'est la force du désir. Par exemple, nous désirons une voiture comme celle du voisin. Notre voiture n'est pas très neuve, mais elle est pratique. Elle fonctionne. Par contre, celle du voisin est bien plus belle, plus moderne, plus grande, et nous désirons avoir les mêmes. Nous nous mettons donc à travailler encore plus, ce qui nous fait penser que nous avons beaucoup d'efforts de volonté, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas de la volonté, ce n'est que de la force du désir. Le désir d'avoir une voiture toute neuve, grande et belle, la même voiture que notre voisin, il s'agit de l'envie. Il s'agit de l'envie, de la cupidité, car nous voulons toujours en avoir plus. Cette force du désir peut se confondre avec la force et la volonté. Nous avons besoin d'une volonté vraie, celle qui nous fait méditer tous les jours, celle qui fait que nous dirigeons notre attention vers notre monde intérieur pour nous auto-découvrir, celle qui nous fait aider les autres de manière volontaire. Pour cela, oui, il nous faut bien sûr de la volonté vraie, cette volonté-là que nous devons obtenir, développer en nous. Comment pouvons-nous développer cette volonté en nous? Eh bien, en éliminant de notre intérieur la mauvaise volonté. Nous devons avoir aussi de la sainteté. Nous devons donc détruire en nous nos éléments psychologiques indésirables. Ce chakra Sahasrara est un chakra très puissant. Il requiert des grandes vertus pour son activation, son développement. Lorsque l'homme peut voir ce chakra en clairvoyance, il ressemble à une fleur de lotus avec 12 pétales centraux et 1000 pétales tout autour. Chaque pétale est un canal ou un nadi. C'est ainsi que l'on appelle canal en langue sanskrite. Ces canaux amènent l'énergie de ces chakras dans les différentes parties du corps. Les chakras sont très intéressants. Connaître leur fonctionnement est une très bonne chose car, lorsqu'ils se développent, ils nous donnent des facultés. Quelle serait la faculté que nous donnerait ce chakra Sahasrara s'il était développé? Nous aurions la faculté de la polyvoyance. Oui, la polyvoyance. Nous ne parlons pas de la clairvoyance, mais de la polyvoyance. Poly est un terme grec qui signifie beaucoup. Donc la polyvoyance est une clairvoyance qui a une énorme portée. Il existe cette dimension fondamentale, le monde physique, le monde vital, qui est la quatrième dimension, le monde astral, qui est le monde des rêves, le monde mental, le monde causal ou le monde de la volonté, le monde de la conscience, et enfin, le monde de l'être. Ce sont les sept dimensions. Physique, vital, astral, mental, causal ou volonté, la dimension de la conscience est celle de l'être. Et nous pouvons voir que nous avons encore une fois la loi du sept qui organise le monde. La personne clairvoyante peut voir le monde astral, mais celui qui a la faculté de la polyvoyance pour percevoir jusqu'au monde de l'esprit, pas seulement la quatrième ou la cinquième dimension, mais jusqu'au monde de l'esprit, il peut voir même la septième dimension. Vous vous rendez compte de ce que représente la polyvoyance, cette vision spirituelle, c'est être à l'endroit où l'on souhaite être et dans les temps où nous voulons l'être. Voilà la vision spirituelle. Cette faculté s'appelle l'œil de Dharma, l'œil de Shiva. Et Shiva en Inde, c'est l'Esprit Saint des chrétiens. La polyvoyance, c'est trouver spirituellement, par exemple, là. à l'origine de la création. C'est voir le moment où la planète tout crée. Ce n'est pas une faculté que tout le monde peut voir, peut avoir, que n'importe qui peut obtenir, comme ça. Ben, bien sûr, Jésus de Nazareth, oui, avait cette faculté. Bouddha, oui, avait cette faculté. Quetzalcoatl et Hermès, oui, avaient cette faculté. Mais qu'une telle ou telle l'est, mais non, bien sûr que non. Et encore moins celui qui déclare la posséder. C'est une chose très paradoxale. Celui qui déclare avoir ses dons de la polyvoyance ne les possède pas en réalité. Parce que l'une des exigences pour pouvoir développer ces chakras, c'est de ne pas en parler, de ne pas les raconter à tout va, de ne jamais les divulguer. On ne peut absolument pas déclarer que notre chakra Sahasrara est développé et que nous possédons des effets de dons de la polyvoyance. Non. Ce n'est pas possible parce que s'inventer, se montrer un défaut, et un agent se générer des défauts, ce chakra ne peut pas se développer. La polyvoyance, c'est donc une voyance spirituelle. C'est une voyance, une faculté magnifique. Tous nos chakras ont des couleurs, ou les couleurs des 12 pétales centraux du chakra Sahasrara ou du chakra de la glande pinéale sont des couleurs or. Et les 1000 autres pétales qui l'entourent sont des couleurs multicolores. D'accord? Voilà un exemple. Le second chakra est celui de l'entresourcil. C'est un chakra très populaire et beaucoup de personnes ont entendu parler au moins une fois dans leur vie. C'est le fameux troisième œil dont parlait Lobsang Rampa. C'est un auteur de livres très intéressant, ésotérique, du dernier siècle. Eh bien, Lobsang Rampa, dans son livre intitulé « Le troisième œil », ainsi que dans bien d'autres livres, il nous parle de celui. Le nom sanskrit de ce chakra de l'entresourcil est Ajna. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est appelé l'église de Philadelphie. Et ce qui est dit l'ange de cette église, c'est qu'il faut développer certaines vertus pour le développer, pour l'ouvrir. Eh bien, pour développer ce chakra de l'entresourcil, il ne se développe pas n'importe comment ou parce qu'on le souhaite. Ce n'est pas un hasard. Il faut beaucoup de travailleurs, beaucoup de travail, et d'avoir beaucoup de vertus pour le développer, et d'avoir ainsi une clairvoyance positive. Ce chakra se situe au niveau de la glande pituitaire, entre les deux sourcils. C'est pour cela que l'on parle du troisième œil. Pour développer ce chakra, il ne faut pas parler à tort et à travers, et ne jamais dire ce que l'on voit. Nous devons éliminer ces défauts, parce que si nous racontons tout ce que nous voyons en voyance, cette faculté devient négative. Comme nous l'avons dit, les facultés peuvent être positives et peuvent être aussi négatives. Il y a des personnes, par exemple, qui depuis qu'elles sont nées, voient des tas de choses de façon incontrôlée. Des ombres, des fantômes, des entités qui passent, des petites lumières. Ils voient tout cela n'importe où et n'importe comment, sans que cela soit volontaire. Alors, il s'agit d'une faculté de voyance, oui, mais négative. Ce n'est pas ce que nous voulons ici dans l'Arnaud, bien sûr que non. Les facultés négatives ont fait beaucoup de mal et provoqué beaucoup de souffrances dans le monde entier. Nous n'avons pas besoin de ces facultés négatives ni des personnes qui déclarent « Oh, je vois ton aura !»« Ouh, tu as une jolie aura bleue !» C'est ce que disent certains hommes et femmes qui veulent conquérir une jeune fille, par exemple. Ils veulent la séduire, la conquérir. Alors, ils inventent ces sortes de choses, ces genres de choses pour la conquérir. Souvent, ce sont des hommes qui n'ont pas d'argent et qui ne sont même pas que séduisants, qui profitent de leur pseudo-ésotérisme, leur fameux ésotérisme faux, pour se donner de l'importance, pour séduire des femmes. Ils racontent à qui veut l'entendre qu'ils ont les dons de la voyance. Ce n'est pas possible. La véritable clairvoyance positive ne parlera jamais, ne dira jamais qu'il voit. Celui qui déclare voir a donc une clairvoyance négative. D'accord? Si nous avons une clairvoyance négative, nous devons travailler pour la fermer. Je la répète. Si nous avons, pardon. Si nous avons déjà une clairvoyance négative, nous devons travailler pour la fermer, pour l'arrêter, parce qu'elle n'est pas bonne. Et si nous avons cette clairvoyance depuis que nous sommes nés, il faut nous mettre à beaucoup travailler pour que cette faculté négative se désactive et se réactive ensuite en une clairvoyance positive. Alors nous aurons du travail, n'est-ce pas? Fermer la faculté négative et ouvrir la faculté positive. La clairvoyance positive est vraiment très utile, bien sûr. Imaginons un médecin clairvoyant. Il est évident qu'il ne va jamais dire à ses patients, il ne va jamais leur dire qu'il est capable de voir le corps suprasensible, le corps vital par exemple. Le corps vital est la base de la santé du corps physique. C'est celui qui soutient le corps physique. Et les maladies apparaissent d'abord dans ce corps vital pour apparaître ensuite dans le corps physique. Un des problèmes de notre médecine actuelle est d'avoir un diagnostic correct. Comme nous n'avons pas la capacité de voir les corps internes, beaucoup de personnes ne peuvent guérir et mourir parce que l'on n'a pas identifié et diagnostiqué correctement leur maladie. Nous ne connaissons pas la véritable origine de la maladie. Il est évident qu'un médecin clairvoyant positivement diagnostiquerait la maladie parfaitement et tu avancerais du moins 50% dans la guérison, bien sûr. Il ne faut pas s'occuper sans arrêt des affaires des autres, mais dire et propager des remords. Il ne faut pas parler n'importe comment. Un moment, s'il vous plaît. Merci. Merci. Personne parmi nous n'a cette clairvoyance positive. Si on était clairvoyant, ce serait de façon négative. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous devons éliminer de notre intérieur, attention, nous voulons éliminer de notre intérieur la colère, car tant que nous serons colériques, impatientes, intolérantes, grossières, cette faculté ne va jamais pouvoir se développer en nous. Si vous êtes clairvoyante, mais que vous mettez en colère, eh bien, votre clairvoyance n'est pas positive, elle est négative. La clairvoyance positive ne va jamais se développer en nous si nous ne désintégrons pas avec la colère, les coupes de sang, les énervements, l'impatience. Si nous avons ces défauts, cette clairvoyance positive ne va jamais se développer en nous parce que chaque manifestation de colère abîme les chakras ajna. Chaque manifestation de colère fait que cette énergie, que l'on appelle lumière astrale, se décompose en venin énergétique. Ce venin énergétique abîme ces chakras de l'entresurcil. Et c'est pour cette raison que jamais ou grand jamais, nous ne pourrons jamais développer cette clairvoyance positive si nous avons, en même temps, la colère en nous. Ces chakras ajna possèdent deux pétales qui sont vraiment très beaux. Ils sont d'une couleur blanche. Ils nous donnent les dons de la clairvoyance. La clairvoyance positive nous permettrait de voir en plus de ce qu'il se trouve dans le monde physique, la quatrième dimension aussi. Dans cette quatrième dimension vivent des créatures élémentales de la nature, des fées, des doutants. Toute cette vertu de l'âme et de la nature vit dans la quatrième verticale, dans la quatrième dimension. Lorsque la clairvoyance positive se développe, on peut voir ses fesses et ses petits loutons, et on pourrait même arriver à voir ce qu'il se passe dans la cinquième dimension. On pourrait même voir aussi les rêves des personnes avec cette clairvoyance positive. Mais, nous le répétons encore une fois, il faut posséder de nombreuses vertus pour avoir ces chakras développés et d'avoir cette clairvoyance positive. N'imaginez pas que vous pourrez l'avoir comme ça, avec un coup d'œil, facilement. Non. Il est nécessaire d'avoir du travail à pour avant. Travail interne, travail avec nous-mêmes. avec le développement des vertus et l'éliminant des défauts psychologiques. Les chakras suivants et les chakras Vishuddha. C'est à les chakras laryngés. Nous avons vu les chakras coronaires du sommet de la tête, les chakras frontales de notre sourcil, et nous allons parler maintenant du chakra laryngé. En sanskrit, on l'appelle le chakra Vishuddha. C'est l'église des Sardis, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il est situé au niveau de la glande thyroïde, glande très importante qui se trouve dans notre gorge. C'est là où se forme la parole. C'est pour cela que pour développer ce chakra, il faut faire très attention à notre parole, à notre verbe. Si nous mentons, ce chakra ne va jamais se développer. Si nous parlons mal, si nous critiquons, si nous jugeons, ce chakra ne va jamais se développer. Le mauvais usage du verbe de la parole abîme ce chakra. Ce chakra laryngé possède beaucoup de pouvoir parce que le verbe crée. Dans l'évangile de Saint Jean, nous pouvons lire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et sans lui, rien de ce qui est, ni heureux, est fait. » La parole est donc très importante. Nous pouvons voir dans les calendriers aztèques ou pierre du soleil, où centre est représenté le Dieu soleil, avec la langue sortie pour montrer ainsi l'importance et le pouvoir de la parole. Si nous lisons l'épître de Saint Jacques, nous pouvons lire que la langue est comme un petit feu. Petite, oui, mais si on lance un petit allumé dans une forêt très sèche, cela peut causer un énorme incendie, n'est-ce pas? De même, une mauvaise parole peut entraîner de grandes catastrophes dans la famille, par exemple. Une mauvaise parole, la mensonge, ou dans notre travail, ou dans notre entourage. Saint Jacques nous dit aussi que notre langue est comme le gouvernail d'un bateau. Tout petit en comparaison avec les bateaux. Mais lorsque nous pouvons contrôler et bien manière sa gouvernail, nous pouvons contrôler tous les bateaux entiers. Il se passe la même chose avec la langue. Lorsque nous apprenons à contrôler notre langue, nous pouvons dominer tout notre corps physique. Pour développer ce chakra laryngé situé au niveau de notre gorge, de notre thyroïde, qui est l'endroit où se crée la parole, nous ne devons pas nous dire. Ne pas dire des grosseries terres. Nous ne devons pas critiquer. Nous ne devons pas juger. Superficiellement, jamais. Nous ne devons pas dire des mensonges, ni propager des rumeurs. Pour développer ces chakras, nous devons ne pas faire mauvais usage de la parole. Nous ne pouvons pas dire des sommes folles. Nous pouvons aller dans des séminaires d'harmonisation des chakras. Cela ne servirait à rien, parce que de nos jours, tous nos chakras sont inactifs. Parce que nous avons tous ces défauts qui les maintiennent inactifs. Le chakra laryngé a 6 pétales, canaux ou nadis. Et il faut bien sûr faire très attention à nos paroles. Il est d'un bleu intense. Qui d'entre nous fait très attention à ses paroles? Personne. Nous parlons tous comme si nos paroles n'avaient aucune importance. Nous apprenons à nos enfants à mentir depuis qu'ils sont tout petits. Nous sommes une race de menteurs. Nous mentons à la moindre occasion. Nous déclarons même qu'il y a des mensonges purs, qu'il y a des moments où il est bon de mentir. C'est à cause de cela que ce chakra ne s'est jamais développé en nous. Voyez quelles sont les facultés que ce chakra nous donne lorsqu'il est bien développé. Cela vaut vraiment la peine de faire attention à nos paroles, à notre verbe. Il faut que nous arrêtions de toujours nous justifier. Nous devrions faire plutôt attention à qui nous sommes pour nous corriger, pour nous transformer, et ne pas faire comme Pilate qui condamne le Christ et qui ensuite se lave la main. Voilà comme nous agissons de nos jours, n'est-ce pas? Nous pouvons faire ce qu'il y a de pire. Et ensuite, nous nous lavons les mains et nous justifions. Nous avons cette habitude de nous justifier pour toujours. Eh bien, quels sont les pouvoirs que nous donne ce chakra laryngé lorsqu'il est développé? Il nous confère la clairaudience. C'est une faculté qui nous permet d'entendre ce qu'il se passe dans les dimensions supérieures de la nature. Pythagore disait qu'il y avait une musique de ces sphères. Oui, Les symphonies cosmiques existent bien. Et des grands initiés comme Richard Wagner, Beethoven ou Mozart entendaient et les reproduisaient dans leurs œuvres musicales extraordinaires. Et c'est la grâce à cette faculté qui est la clairaudience. Il nous confère aussi le synthétisme conceptuel. Attention, attention. Si nous développions ces chakras, nous pourrions comprendre intellectuellement toutes choses. Vous imaginez? Tous ceux qui étudient pour être des professionnels devraient faire attention à leurs paroles et développer ces chakras laryngés pour ainsi pouvoir passer à des brios toutes leurs matières, car ces chakras nous donnent le synthétisme conceptuel ainsi que la compréhension de toutes choses. Alors, une manière de nous préparer pour l'université, par exemple, c'est apprendre à parler de manière positive, de manière harmonieuse, sans la mensonge, sans les rumeurs. D'accord? Et tout cela, peu à peu, nous préparera pour avoir des facultés de compréhension intellectuelle, pour apprendre de meilleure façon les thèmes, les sujets de l'université, par exemple. Voyez-vous? Nous pourrions avoir non seulement une compréhension en général de toutes choses, mais aussi nous aurions la compréhension de n'importe quel livre sacré du monde. Alors, si nous ne les comprenions pas, si nous avons beaucoup de confusion avec les livres sacrés, et chaque personne donne sa propre interprétation, eh bien, avec ces chakras développés, nous l'entendons, nous les comprendrons. Ces chakras développés nous donnent aussi les Trikala Gnana. Gnana signifie la connaissance, et Trikala veut dire le présent, le passé et le futur. Vous vous rendez compte de tout ce que pourrait nous donner ce chakra s'il était développé et nous? Eh bien, nous avons aussi les chakras cardiaques. Pardon. Les chakras du cœur. C'est les chakras Anahata ou l'église de Thyatira. Ce chakra est étudié dans le cœur. Et c'est étudié, est situé dans le cœur, dans le plexus cardiaque. C'est-à-dire, dans tous les systèmes nerveux qui se relationnent avec le cœur, il y a les couleurs du feu vivant, du feu vif, d'accord? Pour développer ces chakras du cœur, nous devons faire preuve de charité consciente et non pas avoir une charité mécanique. Lorsque quelqu'un mendiante nous approche, nous lui disons Prendre ses monnaies. Au revoir. Ce genre de charité n'est pas la charité que nous parlons ici. La charité nécessaire pour ouvrir ses chakras du cœur. L'amour est loi, mais l'amour conscient. Il faut aussi avoir la foi. Non pas une foi de charbonnière, mécanique, par habitude, mais plutôt une croyance. Mais une foi consciente. On doit servir les autres, avoir de la patience, prière, mais de façon consciente. Ce sont des valeurs que nous ne possédons pas de nos jours et que nous devons développer. Nous sommes très matérialistes et froids. Nous ne voulons que de l'argent et encore plus d'argent. C'est tout ce qui nous intéresse. Et la charité, elle n'existe plus de nos jours. Et la foi, non plus. Il y a du fanatisme, oui, mais pas de la foi consciente. Le maître Jésus nous l'a très bien dit. Si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, vous déplaceriez des montagnes. Une jour, nous n'avons plus de foi, ni même une foi comme un petit grain de moutarde. Et ça ravit sous autres. Non, cette dure non. C'est toujours nous. D'abord, et les autres après. Les autres personnes ne s'importaient peu. La patience, elle a disparu. Nul, nous n'avons plus. L'oration consciente, encore moins. Nous prions en récitant nos prières comme des perroquettes à toute vitesse. Comme si nous avions un pistolet braqué dans notre dos. Ou comme si nous faisions la course. Cela n'est pas une façon de prière. Réciter 20, notre Père, est à peine 30 minutes. Cela ne s'appelle pas prière. Il n'y a aucune conscience dans cette façon de prier. Nous devons avoir une oration consciente pour développer ce chakra. D'accord? Ce chakra possède 12 pétales, nadis ou canaux. Et s'il était développé, il nous donnerait l'intuition. L'intuition est une faculté merveilleuse. Et la mère nature a déposé cette intuition d'une façon plus importante chez la femme. Parce que celle-ci a une sainte prédestination qui est celle d'être mère. C'est quelque chose d'extraordinaire. N'importe quel homme, même s'il se sent très puissant et très intelligent, ne pourrait jamais nier qu'il est né d'une femme. C'est pour cette raison que Mère Nature a déposé en la femme un tout petit peu plus de cette faculté de l'intuition que chez l'homme. Lorsqu'elle devient mère, une femme possède cette faculté en elle d'une façon latente, mais en plus grande quantité que chez l'homme. C'est pour cette raison qu'il est très difficile de tromper une mère. Elle peut se laisser tromper. Apparemment, c'est autre chose, car une mère ressent, sent, pressent les choses. Elle sait ce qu'il arrive à son enfant, même s'il est très éloigné d'elle, parce qu'elle sait et le ressent. Voilà l'intuition, voilà les coupes de peur. Nous devrions développer cette faculté parce qu'elle pourrait nous aider à résoudre les problèmes que le mental ne peut pas résoudre. Le mental complique les problèmes. Le mental grossit les problèmes. Il fait d'un plus un cheval, comme on dit. Ce chakra, lorsqu'il est développé, nous donne aussi la possibilité d'aller dans l'astral. Les voyages astro-conscients sont possibles avec ce chakra développé. Il nous fait être conscients de nos rêves. Et toute la grâce ou valeur de ce chakra cardiaque, il nous donne aussi les pouvoirs jinas. Quels sont les pouvoirs jinas? C'est le pouvoir d'entrer avec son corps physique, ce que nous avons, dans une autre dimension, généralement la quatrième dimension, mais aussi la cinquième, la sixième et même la septième. Comme le faisaient les disciples de Bouddha, ils pouvaient, avec leur corps physique, traverser les montagnes, en étant en pleine concentration. Ou comme la légende de Milarepa aussi, ce sage oriental qui pouvait flotter dans l'air. Ou comme Saint François d'Assise qui pouvait léviter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des êtres, des maîtres très spirituels. La spiritualité est liée à notre corps. Ce sont des facultés jinas. Et elles sont en relation avec les chakras du corps, les chakras cardiaques. Si nous ne développons pas les charités, la méditation consciente, la prière consciente, etc., jamais ce chakra ne pourra se développer, n'importe combien de quartz ou pierres de couleur nous placerons sur notre corps, d'accord? Les chakras suivants, les chakras Manipura ou l'église de Pergame. Bonjour. Voilà les chakras Manipura ou l'église de Pergame. Eh bien, rappelons qu'un plexus est un ensemble de nerfs, d'accord? Un complexe nerveux. Nous avons situé deux travers des doigts au-dessus du nombril et un système nerveux qui s'appelle le plexus solaire. Et nous avons au même endroit le chakra ombilical, puisqu'il est situé près du nombril. On l'appelle le chakra Manipura ou l'église de Pergame. Le défaut que nous devrons éliminer pour activer ce chakra du plexus solaire est attention, l'alcoolisme, ainsi que les défauts de la gourmandise ou de la gloutonnerie. La gloutonnerie et l'alcool et les drogues sont intimement liés. Nous devons donc étudier ces défauts en profondeur pour pouvoir les éradiquer et développer le chakra Manipura. Ce chakra possède 10 pétales, canaux ou nadis et nous confère lorsqu'il est développé la télépathie. La télépathie est le don de communiquer sans parler, sans téléphoner, sans ordinateur, ni rien de ce genre. Nous avons tous et nous cette faculté de télépathie, mais de façon latente, endormie. Notre glande pinéale est une antenne émettrice qui envoie nos pensées Et le plexus solaire est où se situe le chakra manipura, est une antenne réceptrice qui reçoit les pensées. Donnons un exemple qui vous est peut-être déjà arrivé. Nous allons visiter quelqu'un et nous pensons à cette personne. Nous envoyons donc ses pensées, les conseils en faisant cela. Cette personne reçoit nos pensées. Il est capté avec son plexus solaire par le chakra de la télépathie et inconsciemment, il se met à penser en nous. Nous arrivons chez lui et sonnons à la porte. Et nous ouvrons, il nous dit « Ah, j'étais justement en train de penser à toi. » Voilà un exemple de télépathie. Ce qu'il se passe en réalité, c'est qu'il nous capte nos pensées, nous a capté nos pensées. Il y a une télépathie entre lui et nous. Nous possédons tous ces dons de télépathie en nous, d'une façon latente. Lorsque nous sommes très proches d'une personne, par exemple, un ami, un collègue, un conjoint, notre mère, ou quelqu'un d'autre, et que nous marchons avec cette personne dans la rue en pensant à un très bon repas que nous pourrions faire, avec des fruits de mer, ou des pommes de terre isolées, avec de la bonne viande et une très bonne sauce, et que nous en parlons avec la personne qui est avec nous, elle peut nous dire « Ah, c'est drôle. J'étais justement en train de penser à ce même repas que toi. Qu'est-ce qui se passe ?» De la télépathie. Nous pourrions évidemment développer beaucoup plus cette télépathie si nous arrêtions de manger autant. D'abord, c'est moins de l'alcool, c'est important de nous. Lorsque nous observons ce chakra du plexus solaire en clairvoyance, lorsque nous l'observons en clairvoyance, il ressemble à des nuages chargés d'éclairs compétant un orage quand il va pleuvoir. Le chakra suivant est le chakra Svadhisthana, ou l'église de Smyrna. C'est le chakra sexuel. Le chakra sexuel qui est situé au niveau de la prostate chez les hommes ou au niveau du col d'utérin chez la femme. Chaque chakra est en relation avec les organes qui l'entourent. Par exemple, nous avons le chakra ombilical qui est en relation avec l'estomac et les reins. Le chakra Svadhisthana ou le chakra sexuel et c'est en relation avec les organes sexuels. Si nous avons une maladie dans un endroit à côté d'un chakra, en travaillant sur ce chakra, cela pourrait nous aider à guérir. Les chakras sont très importants, mais pour les développer, nous avons vraiment besoin de beaucoup de patience. Voyez ce qu'il est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ce qu'il dit l'ange, il faut avoir des tribulations et de la puberté. Eh bien, on pourrait nous dire, eh bien, moi, qui suis pauvre et qui ai des tas de problèmes, je dois avoir ce chakra bien développé alors. Mais il ne s'agit pas d'un manque d'argent. Cela n'a rien à voir. Cela veut dire simplement qu'il faut se montrer humble. Voyez-vous? Nous montrer humble, c'est être pauvre. Ne pas être riche en esprit, avec la vanité, avec l'orgueil. Nous pouvons très bien ne pas avoir beaucoup d'argent, mais, au même temps, avoir la tête pleine et nous sentir pour cela très importante. Alors nous continuerons à être riches de notre orgueil, de notre vanité, à nos pensées. Sans argent, mais riches de vanité et riches d'orgueil. Voilà ce que signifie être riche. Eh bien, au contraire, nous pouvons être riches, mais en même temps, être pauvres, humbles, d'accord? Nous pouvons avoir beaucoup d'argent, mais avoir la discipline, l'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes, et nous exprimer de manière humble, nous sentir humbles de manière naturelle, d'accord? Pas une limitante. Nous avons besoin d'humilité. À propos des tribulations, on pourrait dire aussi, eh bien, j'ai des tons de problèmes et de difficultés avec dans mon travail, avec ma femme, avec mes enfants. Je dois avoir alors ce chakra hyper bien développé avec tous ces problèmes que j'ai dans la vie. Parce que ce sont des tribulations, n'est-ce pas? Eh bien, il ne s'agit pas de cela, bien sûr. Il s'agit plutôt d'apprendre à tirer parti de l'adversité de la vie. En développant ces facultés, nous pourrions développer ce chakra sexuel. Voyez-vous? En développant comment tirer des problèmes de la vie, comment profiter des problèmes de la vie, des adversités de la vie, pour grandir intérieurement. Si nous avons l'humilité, alors nous pouvons, avec ces pouvoirs, avec ces facultés, avec ces dons, avec ces mérites, vertus, développer les chakras sexuels. Il y a six pétales, comme on a dit, et ils nous donnent les pouvoirs sur l'élément eau. D'accord? Les chakras cardiaques se relationnent avec l'air, les chakras ombilicales, avec le feu et les chakras sexuels, nous venons de le dire, et se relationnent avec l'eau. Ce chakra sexuel a plusieurs couleurs, qui sont les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, les violettes et l'orange. Ce sont toutes les couleurs du chakra sexuel. En dernier lieu, nous avons le chakra fondamental, le chakra Muladhara, ou chakra coccygien. Il se trouve à la base de notre colonne vertébrale, dans le coccyx. Il y a aussi un plexus à cet endroit, et on le nomme aussi l'église d'Éphèse. Muladhara veut dire fondamental. Pour développer ce chakra fondamental, nous avons besoin de patience. Parce que nous voulons généralement que tout aille très vite. Nous devons avoir un travail, parce que le travail pour gagner notre vie de tous les jours est fondamental. Nous ne devons pas le fuir, car il fait partie aussi de notre développement spirituel. C'est certain. Le travail des étudiants, c'est d'étudier. En tant qu'étudiante, nous ne devrions pas aller à l'école ou à l'université avec de la mauvaise volonté ou en étant forcés. On devrait y aller avec plaisir. On ne devrait pas non plus tricher pendant les examens, parce que c'est lui que l'on trompe, c'est nous-mêmes. Et notre travail pour gagner notre vie ne devrait pas être une obligation, il devrait être un plaisir, une vocation. Oui, nous travaillons pour avoir un salaire, pour gagner de l'argent, pour gagner notre vie. Mais nous avons besoin de le faire avec vocation, avec goût, avec plaisir aussi. Nous en avons besoin de cela. Nous avons aussi besoin de souffrance. C'est ce que nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Beaucoup diront, oui, j'ai beaucoup de souffrance. Non, il ne s'agit pas de cela. Et nous le répétons, c'est comme la tribulation, c'est d'apprendre à vivre, apprendre à s'adapter aux différentes situations qui se présentent à nous dans la vie même, même si elles sont problématiques et douloureuses, même si elles sont difficiles. Voilà ce dont nous avons besoin pour développer ce chakra coccygien. Ce chakra fondamental, ou coccygien, possède quatre pétales. Et il nous donne le pouvoir sur l'élément terre. Sa couleur, chez nous tous qui vivons sur terre et qui sommes très fornicateurs, luxuriaux et malsains, a la couleur rouge sale. Chez les initiés, ce chakra a une couleur rouge-orangé. Et chez les mystiques initiés, sa couleur reste rouge-pourpre. Tous ces chakras doivent tourner de gauche à droite. C'est très facile. On ne peut pas se tromper. Imaginez une horloge placée en face des vues. Imaginez-les. Imaginez-les. Voyez comme tournent les aiguilles de gauche à droite. Nous avons les 9 heures, 12, 3, 6, 9, 12. D'accord? Nos chakras doivent tourner de la même manière. Pour mieux comprendre, nous pouvons dire que le mouvement s'est fait de la main gauche vers la main droite et passant par l'autre. Main gauche, tête, main droite, pied. main gauche, tête, main droite, pied. Il doit tourner de cette façon, c'est facile, nous devons l'imaginer en tournant de cette façon. Comme un horloge placé en face des bus, comme voyez comme tournent les aiguilles. Une personne qui s'enivre, qui s'accoule, qui arrive dans un délirium tremens, active ses chakras, oui, ou avec la drogue, mais de façon négative. Négative. De façon négative, de manière contraire. Un alcoolique, dans son délire, a une clairvoyance négative. Tout ce qu'il voit fait partie des dimensions inférieures de la nature. Et vous comprendrez qu'avec le cannabis, la marijuana, le peyote, et toutes les drogues naturelles ou chimiques activent les chakras, mais à l'inverse. Se réveille alors en clairvoyant négatif. C'est aussi simple que cela. Nous ne devons absolument pas de prendre des plantes ni des drogues, car elles réveillent les chakras de façon négative. Nous devons faire tourner nos chakras de gauche à droite, toujours. Gauche à droite. De la main gauche vers la main droite, en passant par l'autre. Nous allons vous donner une pratique suivante. Un exercice pour activer nos chakras et nous vous recommandons de toujours assister à notre site, notre website, pour faire la pratique de la semaine. Pour cette pratique, nous allons vous donner, vous pouvez rester assis ou bien vous coucher, mais il faut vous placer dans une position confortable. Fermez les yeux. Et bien relâcher le corps physique, le mental. Le mental aussi. Il faut se concentrer sur le divan et lui demander de l'aide pour l'activation de nos chakras en utilisant le pouvoir de la parole, du verbe, pour l'activation de nos chakras. Pardon. Il ne faut pas oublier non plus que ce travail doit être très complémentaire avec le travail pour acquérir le mérite du cœur, pour acquérir des vertus. Sinon, il n'y aura aucun résultat. C'est un travail qui doit être unitotal et non pas unilatéral. Nous ne devons pas faire uniquement les pratiques. Nous devons également faire un travail sur nous-mêmes pour que se développent nos chakras. Nous devons faire un travail de façon complète. Nous devons travailler pour augmenter nos vertus et nos mérites du cœur et travailler en même temps sur nos chakras avec les vocalisations. Travailler avec le pouvoir de la parole, avec le pouvoir des sons. Le son, parce que le commencement était le verbe. Les sons peuvent vraiment nous aider. Les mantras sont des paroles de pouvoir. Ce sont des sages combinaisons de sons qui peuvent nous servir à de nombreuses choses pour relaxer notre mental, pour bien dormir, pour éloigner un chien. Pour éloigner un chien. Ou charmer un serpent. Les mantras sont très utiles dans de très nombreux cas. Eh bien, chers amis, les voyelles ésotériques, en vocalisant le nom de Jean, qui représente le verbe ou la parole, Jean, nous pouvons les décomposer dans les voyelles et dire I, E, O, U, An. I, E, O, U, AM. M, S. D'accord? Eh bien, nous pouvons relaxer notre corps et notre mental et nous allons les vocaliser. Le I pour le chakra de l'intrasourcil, la E pour le chakra laryngé, la O pour le chakra du cœur, la U pour le chakra du plexus solaire, le A pour le chakra de poumon, le M pour le chakra prostatique, utérin, et le S pour le chakra fondamental ou oxygène. Vous remarquerez que nous ne faisons rien pour le premier chakra du sommet de la tête parce que la glande pinéale et la glande pituitaire sont connectées bioélectromagnétiquement, c'est-à-dire énergétiquement. Et lorsque nous travaillons pour développer les chakras de l'intrasourcil, nous travaillons en même temps sur les chakras du sommet de la tête. Eh bien, nous inspirons pour la première lettre, pour la première voyelle. Et nous expirons. I... Tous ensemble. La voyelle E, inspirons. Ou, ah, pardon, O. Empirant. Les M, comme les mugissements d'un taureau, mais avec la bouche fermée, les lèvres fermées. Et finalement, la lettre S en serrant les dents. Très bien. Dans notre chambre, nous pouvons commencer par 10 minutes de pratique. Premièrement, la relaxation, et alors 10 minutes de pratique. Nous pouvons utiliser les verbes pour les répéter. Et si vous les trouvez utiles, peut-être écouter de la musique classique pour qu'elle ne laisse pas les autres écouter notre vocalisation. D'accord? Eh bien, nos chakras vont aider avec la santé des glandes avec lesquelles ils sont associés, ou avec les plexus nerveux avec lesquels ils sont en relation. Et cela va nous donner une meilleure santé et un meilleur bien-être pour les facultés que nous pourrions obtenir. Eh bien, elles arriveront en temps voulu, progressivement, naturellement et de façon juste, de façon naturelle. Pas dans un saut. Je n'ai pas de pouvoir, et voilà, j'ai le pouvoir entier. Non. Peu à peu. Même comme la petite fleur naître de la terre. Le grand arbre. Mais il est né de façon très très simple. Très simple. Peu à peu. Peu à peu. D'accord? Voilà, mes amis, nous avons terminé notre conférence. Pour la bibliographie, nous vous recommandons la conférence sur le pouvoir des mantras qui se trouve sur notre website dans la section des conférences. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner. Voilà la bibliographie. À bientôt. Merci et à bientôt.